bonjour et bienvenue sur Monnaie Libre. Cette semaine, je reçois Marc de Basquiat, ingénieur, qui a fait une thèse de doctorat sur l'allocation universelle, ou donc le revenu de base. On parlera peut-être plus de revenu de base. Alors, bonjour Marc.
Bonjour Stéphane.
Comment ça va ?
Ah bien, ma foi. Belle journée sur Paris.
Alors, donc, on va parler un peu de ton parcours. Comment tu es arrivé à faire une thèse de doctorat en économie, ce qui est quand même pas quelque chose qu'on rencontre à tous les coins de rue. Et puis, de voir aussi comment cette thèse t'a amené finalement à cette préconisation économique du revenu de base. Alors, on va parler de toi un peu d'abord, parce que c'est important, je crois, puisque tu n'es pas économiste de formation, mais tu es ingénieur, et notamment de Supélec. Je crois que tu as eu ton diplôme à Supélec, c'est ça ?
Tout à fait, je suis un Supélec, oui. Je suis ingénieur de formation et dans l'âme. Je suis resté ingénieur, et donc tout ce que j'ai pu faire après, y compris l'économie, j'ai fait avec un regard et des méthodes d'ingénieur.
Ouais, voilà.
D'ailleurs, ça c'est amusant.
Ça nous intéresse ici, parce qu'on aime bien les ingénieurs sur Monnaie Libre. On aime tout le monde, hein, mais on aime bien les ingénieurs en particulier. Et tu as passé du temps notamment à faire de l'informatique.
Oui, donc j'ai commencé ma carrière il y a quelques années, déjà une bonne vingtaine d'années, dans le domaine informatique, plus souvent d'ailleurs dans le domaine du logiciel. J'ai eu des postes techniques et aussi beaucoup de marketing, donc direction de lignes de produits, ce genre de choses. Et dans ces expériences-là, effectivement, j'ai appris un peu la vie, hein, j'ai appris différentes choses. J'ai appris que ce que je faisais pour défendre les valeurs de ma boîte, d'autres le faisaient pour défendre leur propre boîte, donc on était en concurrence. Donc, c'était un bon apprentissage, la concurrence, on apprend des choses sur la vie. Voilà, puis également, dans ces différentes expériences, j'ai eu l'occasion d'être patron d'équipe et tout ça, donc c'était également assez instructif sur différentes choses. Et d'ailleurs, c'est dans ces expériences-là que j'ai eu l'intuition de quelques réformes qui pouvaient être envisagées sur notre système social et fiscal français.
Oui.
Par exemple, j'ai découvert à un moment que lorsque j'avais des personnes dans mon équipe qui avaient des passés variés, divers et variés, quand je voulais faire les augmenter, hein, très concrètement, une fois par an, de manière juste, et c'était très compliqué à faire. Parce que chacun ayant son passé, ayant sa situation personnel, familial et autres, il est très très difficile, voire impossible d'avoir un regard juste par rapport à une augmentation qu'on veut donner à Pierre, Paul ou Jacques en fonction de son travail.
Et notamment justement ce que tu m'expliquais un petit peu avant l'émission, c'est que tu t'es rendu compte en tant que cadre, en tant que responsable de ces augmentations notamment en partie, que finalement les salaires ou les revenus n'étaient pas toujours clairement en rapport forcément avec ce que faisaient les uns ou les autres. C'est-à-dire qu'on voyait, tu ne voyais pas forcément pourquoi il y avait des différences avec finalement des activités qui étaient proches ou voire
voilà, semblables. C'est un peu troublant quand on prend ça sérieusement, on dit tiens, je vais essayer d'être juste par rapport à mon équipe. Eh bien, on est assez démunis en fait, parce que la complexité qu'on a dans l'entreprise, ça on comprend bien, mais qu'on a également dans le système social qui est autour, ça rend la vision de la justice tout à fait relative.
Oui, notamment alors ceux qui ont des familles, ceux qui
Quelqu'un qui est célibataire, qui vit sur Paris, ou quelqu'un qui est célibataire qui vit en province, qui a des contraintes différentes, quelqu'un qui a une famille, qui est âgé, pas âgé, qui a des enfants étudiants, pas étudiants, tout ce monde-là reçoit des aides potentiellement, des aides différentes selon plein de choses, selon plein de critères. Et honnêtement, je pense qu'il est quasiment impossible à quelqu'un de savoir, de juger le niveau de justice d'une rémunération par rapport à tout ça.
Dans ce système-là ?
Dans le système actuel.
Alors, donc, on arrive maintenant on comprend déjà les questions que tu te poses, et on arrive à ton parcours récent, puisque tu te lances à un moment donné dans cette réflexion sur le système social et fiscal français. Et alors, tu fais un site internet. C'est
voilà.
Ça, hein, où tu commences à analyser ça.
Donc mes recherches sur le sujet, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je m'interroge sur ces aspects-là, que j'achète des bouquins d'économie. Non seulement je les achète, mais en plus je les lis, ce qui est encore plus douloureux, faut le reconnaître. Et, parce que certains ne sont pas très drôles. Hein. Bon,
oui.
Et des bouquins d'économistes, c'est vrai, c'est pas très rigolo. Bon. Le constat, c'est qu'en général, ces auteurs économistes sont assez précis, assez justes sur les constats de ce qui ne va pas. Là-dessus, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu vraiment plaisir à les lire. Mais en général, en tout dernier chapitre, il y a quelques idées de ce qu'on pourrait éventuellement envisager d'analyser comme piste potentielle de quelque chose.
Oui, ça
Voilà.
reste très flou.
Donc c'est extrêmement flou dans les préconisations. En général, bon, il y a peut-être des exceptions, hein, ne généralisons pas. Mais souvent, c'est très flou. Souvent, c'est très flou. Et ça, pour moi, c'était quelque part le fondement de mon engagement, en me disant, moi qui suis ingénieur, on me demande d'apporter des solutions. Moi, je ne suis pas économiste de formation, hein, je suis ingénieur, je suis là pour résoudre des problèmes très concrets, face à des réalités qui s'imposent à moi, et donc, ben, tant que je n'ai pas sorti une solution, ça ne va pas.
Oui,
Et
ça
je
fait.
suis, voilà, donc c'est mon point de départ.
Ouais. D'accord. Et donc, ça t'amène à réaliser ce site internet.
Voilà.
Et je crois que tu rencontres un peu par hasard un économiste belge.
C'est ça, c'est-à-dire que ceci, donc, j'ai fait après avoir lu différentes choses, avoir consulté un peu sur Internet, ce qui existait également. Et puis mon site, bah, a été vu par différentes personnes, y compris par un économiste belge, effectivement, avec qui je suis entré en relation. Et je lui ai posé la question, voilà ce que je fais, apparemment ça vous intéresse, mais à votre avis, est-ce qu'il y a des gens en France qui travaillent également sur le même sujet? Et elle me dit, oui, je connais quelqu'un à Aix-en-Provence, un professeur d'économie, qui s'intéresse également au même thème, donc vous devriez le rencontrer. Bon, ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous, nous avons discuté. Entretien cordial, chaleureux, charmant, sympathique. Et à la fin, il m'a dit, vous savez, c'est très bien ce que vous faites, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir des doctorants qui travaillent sur ce sujet-là, qui fassent une thèse sur ce sujet, et j'ai du mal à en trouver. Le sujet est quand même très aride. Et donc, voilà, est-ce que vous ne feriez pas une thèse avec moi? Proposition tout à fait honnête dans son esprit. Que je me suis empressé de rapporter à mon épouse le soir en rentrant et qui a eu une réaction très saine qui était de hurler
Parce qu'elle connaissait le sujet, parce que je crois que c'est ça
parce
qui m'a.
qu'elle est, parce qu'elle est du milieu universitaire. Ses parents sont universitaires tous les deux, son père est
Ouais.
professeur assez réputé. Bon,
Donc.
donc pour elle, elle savait ce que ça voulait dire de faire une thèse. Moi, j'avais
Oui.
aucune idée, j'étais totalement ignorant de ces sujets-là. Donc elle a hurlé, elle avait franchement raison. Et finalement, bah, au bout de quelques mois de réflexion, j'ai fini par dire oui et je me suis engagé dans cette aventure un peu folle parce que ça m'a pris 5 années de ma vie à faire
Alors.
ma thèse en parallèle d'un travail qui était un peu prenant par ailleurs. Donc c'était un peu fou. Voilà.
Oui, alors 5 années, effectivement, on voit, alors évidemment, ça risque de refroidir tous ceux qui veulent se lancer dans une thèse. Enfin, bon, enfin c'est intéressant à voir parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément en France qu'on peut finalement se lancer dans une thèse, même si on n'est plus dans l'université depuis longtemps. Souvent, on dit qu'on fait une thèse doctorat après avoir fait un master ou après avoir.
Mais c'est les jeux des équivalences, oui.
Bon, voilà, etc. Enfin, essayer de continuer dans les études, mais on peut aussi le faire bien plus tard. Et donc, on peut aussi se lancer dans, pourquoi pas, une thèse de philosophie. Enfin, tous
Mais
les sujets sont.
faut être bien accroché, parce que
Ah,
c'est un drôle de parcours.
c'est un drôle de parcours. Mais c'est quand même intéressant. Et alors, ça t'a pris effectivement 5 ans. Alors, donc, ça veut dire que cette thèse, finalement, démarre sans doute en 2006, par là.
Ouais, c'est ça.
Et 5 ans plus tard, on arrive en 2011. Donc, on est tout près maintenant. Ça y est, on est dans le présent. On y est
On
quasiment.
arrive.
Puisque ça fait même pas un an encore que tu as soutenu cette thèse. Donc d'économie à l'université donc d'économie d'Aix-en-Provence et tu as obtenu ton titre de docteur en économie, ça c'est extraordinaire. Donc tu es
Quel jour.
ingénieur et docteur en économie, ça c'est
Voilà,
bien.
bon.
Donc ça c'est voilà, donc c'est ça c'est acquis, ça c'est fait, on va dire. Et donc cette thèse est là. Alors ce qui évidemment ce qui nous intéresse à nous sur Monnaie Libre et ce qui intéresse sans doute tous les auditeurs, c'est cette thèse elle est remarquable à plus d'un titre. Parce qu'elle analyse le système social et fiscal français, et puis surtout elle arrive à la conclusion du revenu de base. Donc ça c'est tout à fait intéressant, puisque c'est une thèse à une valeur je dirais, d'apport scientifique indéniable. Donc ça c'est un pavé dans la mare en faveur du revenu de base, un peu pour sortir la tête de l'eau, c'est bien de mettre des pavés dans la mare, hein, ça c'est pratique. Donc cette thèse. Comment finalement elle s'est construite? Quelle a été ta démarche? Tu m'as parlé, je crois, d'aller ben justement de la complexité vers plus de simplicité de justice. On va y revenir. Mais tu t'es appuyé aussi, alors ça c'est peut-être on peut le citer un peu, sur évidemment, comme dans une thèse normale, sur des auteurs précédents, notamment de Bourguignon et Piketty. Alors Piketty est connu, on peut en parler 2 minutes, puisqu'il a conseillé le Parti Socialiste, je crois. Sur son programme au présidentiel de 2012, c'est lui qui a proposé la fameuse révolution fiscale. Il a expliqué que le système français n'était pas forcément hyper juste. Hein, voilà. Et il y a aussi Bourguignon, dont tu m'as parlé, qui est très important aussi dans
Voilà.
ton travail.
Voilà, donc sur ma thèse, le point de départ, enfin, je dirais mon sujet de thèse, c'était bien de mettre en place un financement pour l'allocation universelle. Le thème de l'allocation universelle ou du revenu de base, c'est un thème qui est connu depuis assez longtemps. Pas mal d'écrits existent sur le sujet, en France et dans d'autres pays, et qui sont des écrits qui sont plutôt de nature philosophique, économique, bon. Et ce qui manquait vraiment le gros trou, c'était une évaluation, la construction d'une solution de financement économique qui soit totalement documentée à un niveau microéconomique, c'est-à-dire pour les individus, et à un niveau macro également, en disant pour l'équilibre du budget de l'État, comment ça peut fonctionner. Et donc, la demande que j'avais, la commande de mon directeur de thèse, c'était ça. C'était d'évaluer, de mettre en place un financement qui soit viable d'un point de vue micro et macroéconomique. Et pour cela, donc évidemment, j'ai lu évidemment, plein de trucs qui existaient. Hein, dans les auteurs reconnus, autres également, il y a aussi Tony Atkinson, qui est un Anglais qui a écrit il y a une vingtaine d'années un bouquin assez connu qui est Basic Income, Flat Tax. Hein, et donc là-dessus, il y a déjà des modèles qui existaient, hein, au moins celui d'Atkinson. Puis également d'autres auteurs, Philippe Van Parys, qui avait également écrit des choses sur la philosophie du financement de l'allocation universelle. Donc j'avais pas mal déjà de matière conceptuelle utilisable. En France, l'écrit le plus connu finalement, c'était bien celui de Bourguignon et Caporri de 1998, qui avait fait une analyse assez globale, c'est pas très long quand même, mais c'est assez global, sur le système redistributif français, disant le système redistributif français n'est pas très juste, n'est pas très efficace, ne redistribue pas beaucoup, est extrêmement complexe. Bon. Donc il y avait déjà une critique bien établie du système, avec un texte bien connu, François Bourguignon, quelqu'un qui est très connu dans le monde économique, hein, qui était chief economist du FMI, enfin, qui a une culture robuste, hein,
Il faut le
bien
rappeler
connue.
ça, donc il a travaillé au FMI aussi,
Oui,
donc voilà,
oui.
c'est quelqu'un qui connaît très bien la
Oui, là,
macroéconomie.
je crois que là, actuellement, il termine un mandat à l'école d'économie de Paris, à la tête de l'école d'économie de Paris. Donc c'est quelqu'un qui est très établi. Et donc François Bourguignon donc a apporté des choses très 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 précises là-dessus. Il a également fait un autre texte fondateur également avec Dominique Bureau sur l'architecture des prélèvements obligatoires en France. Donc il y a des textes là qui sont quand même très très bien construits que j'ai pu utiliser. Donc j'ai utilisé ces écrits-là. Piketty a fait un texte qui est très connu, qui a été publié début 2011 sur la révolution fiscale, qui a coécrit avec Camille Landais et Emmanuel Saez, qui sont également deux économistes de très bon niveau, hein, très connus également. Voilà. Donc je ne suis pas parti de rien. Je suis parti d'éléments bien documentés, bien écrits, reconnus. Bon, voilà.
D'accord, on peut dire
C'est important.
peut-être un petit point
C'est
là-dessus,
important.
c'est que ces auteurs se retrouvent parce qu'ils ont analysé les systèmes en place. Donc c'est une démarche qui est différente de celle de, par exemple, de Lionel Bresson, qui lui a essayé de théoriser l'économie au sens profond du terme, sans tenir compte forcément des détails des systèmes fiscaux et sociaux existants. C'était une analyse beaucoup plus théorique sur le fonctionnement de l'économie au niveau.
Oui, je crois qu'on peut dire ça. On peut dire que Yolan a fait un travail de Yolan qui est tout à fait remarquable. Hein. On a une approche, je dirais, à un méta-niveau de qu'est-ce qui se passe dans une économie d'un pays, quelles sont les grandes forces, quelles sont les grandes logiques. Et donc, c'est un niveau, je dirais, au-dessus,
Mais
conceptuellement.
ça explique pourquoi Yolande n'est pas cité dans cette étude, parce que la démarche n'est pas la même, on est d'accord avec ça.
J'ai cité, si, comme cité, parce que c'est évidemment très important sur le concept sur le territoire français, c'est évident. Mais l'analyse que j'ai faite, le travail que j'ai fait, était plus branché sur l'analyse de l'existant.
Ouais.
Et là, je dirais vraiment un travail d'ingénieur, hein, je crois qu'il faut vraiment le reconnaître, d'analyse, comment on analyse une machine, un moteur, je ne
Ouais,
sais
tout
quoi.
à
Voilà.
fait.
Comment marche le moteur redistributif français. Et là, effectivement, j'ai utilisé une méthode assez massive pour y arriver.
D'accord.
La dernière grande chance que j'ai eue, c'est que les auteurs Piketty, Landais et Saez ont publié début 2011 un livre qui est très connu, mais ils ont également, et ça c'est extrêmement sympathique de leur part, publié sur leur site web l'outil de micro-simulation qu'ils avaient utilisé.
Oui.
Et ça, c'était pour moi un événement énorme parce que quand j'ai commencé ma thèse en 2006, j'avais commencé par faire le tour des différentes administrations qui disposent d'un outil de micro-simulation. Donc à l'INSEE, à la CNAF, au ministère de l'Économie, à Bercy. Et globalement, j'ai rencontré des gens charmants, mais il était hors de question qu'ils donnent l'accès à leur outil, qui était vraiment propriété de leur ministère, hein, à un chercheur indépendant. C'était impossible. C'était impossible. J'ai rencontré des gens charmants, d'ailleurs, avec qui je suis toujours en relation, bon, et qui m'ont donné des conseils tout à fait judicieux. Mais donc, je n'avais pas d'outil. Et le fait que Camille Landais, enfin, Saez et Piketty aient publié leur outil m'a permis de le récupérer. de me former à l'outil, qui est quand même un outil assez sérieux, pour ne pas dire assez énorme, et l'adapter, modifier différents paramètres pour modéliser effectivement tout le système actuel, social et fiscal, et pouvoir modéliser les propositions que
Les
j'ai
impacts,
élaborées.
quoi. Comment un impact de propositionnel peut agir sur le système et quel est le
Voilà.
retour qu'on
Voilà,
peut
donc
attendre?
juste pour aller dans ton idée, hein, dans la base de données, il y a 800 000 individus qui représentent très très précisément la population française dans toute sa complexité. Donc là, on accède à toutes les classes d'individus avec beaucoup de détails.
D'accord, très bien. Alors, maintenant, on va rentrer dans le contenu de cette thèse. Donc tu as essayé bien sûr donc de comprendre la complexité, c'est ça, et d'arriver vers le simple.
Voilà. Donc la complexité, si on regarde le système redistributif français, on peut dire qu'il y a plusieurs catégories de mécanismes redistributifs. Nous avons déjà tout ce qui est prestations, allocations qui sont versées aux individus. Donc allocations, aux prestations comme comme le RSA, les allocations familiales, l'APAJE pour les jeunes enfants, le minimum vieillesse, ASPA maintenant. Il y a une profusion d'allocations qui sont versées dans différents cas à des personnes qui ont des caractéristiques diverses et variées. Certaines de ces prestations dépendent des ressources, d'autres pas. Mais en tout cas, il y a une grande diversité de prestations versées. Là, je parle uniquement des prestations monétaires, hein. Ensuite, en termes de redistributivité, il y a aussi toute la fiscalité. Donc, certains éléments de la fiscalité sont très redistributifs, d'autres pas du tout. Nous avons beaucoup d'instruments de la fiscalité sont des instruments proportionnels, où on paye en fonction de ses revenus ou en fonction de sa consommation de manière proportionnelle.
Oui, par exemple la TVA.
La TVA est le meilleur exemple. La CSG est également dans ce cas-là. D'un point de vue, par contre, redistributif fortement, nous avons l'impôt sur le revenu, l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui, avec ses cinq tranches, assure une redistributivité très forte. Mais néanmoins, c'est un impôt qui est quelque part en fin de vie. D'ailleurs, Piketty le dit extrêmement bien dans son bouquin, qui est en fin de vie parce que les niches fiscales et les exemptions diverses et variées font que il y a moins de la moitié de la population française paye l'impôt. Et du coup, il y a toute une partie de la population qui n'est pas du tout concernée. Et l'accélération, par contre, est forte pour les revenus plus élevés. Mais avec les quotients familiales, les quotients conjugales, les niches diverses et variées, c'est un gruyère.
Oui, c'est un gruyère. Il faut rappeler que, par exemple, si on a évidemment plusieurs enfants, ça fait des parts qui divisent le revenu, etc. Donc, il y a effectivement une grande complexité sur
Voilà.
cette opération-là.
Voilà. Et puis donc ensuite, donc ça c'est la deuxième catégorie. Ensuite, la troisième catégorie, il y a un tas de mécanismes autres qui sont également redistributifs. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, c'est souvent redistributif au deuxième degré. Je prendrai peut-être un exemple qui peut faire mouche, c'est le mécanisme de la dette. Quand l'État rembourse sa dette, l'État prendre l'argent qu'il a prélevé par nos impôts, donc auprès de vous et moi, hein, la TVA, donc tout le monde paye, bon, prendre l'argent prélevé dans les impôts pour rembourser aux gens qui ont prêté à l'État. Ceux qui ont prêté à l'État, en général, sont les gens qui avaient des disponibilités. En général, ce n'est pas les pauvres.
Oui.
Et donc, bon, on ne va pas aller en détail sur ça, Stéphane connaît ça extrêmement bien,
Ouais.
mais il y a quand même une difficulté, parce que la redistributivité induite par le remboursement de la dette est une redistributivité qui est à l'encontre de la justice.
Du reste, quoi. C'est-à-dire
Non.
que là, ici, dans ce mécanisme-là, évidemment, celui qui a prêté attend d'avoir plus que ce qu'il avait transmis, bien sûr.
Voilà, c'est ça. Donc, la redistributivité, on peut en trouver partout. Il y a beaucoup de mécanismes. Et ce que j'ai fait, c'est moi, c'est utiliser ces outils pour modéliser tout ça et voir quelle était la résultante de tous ces mécanismes-là. Et au final, grande surprise, la redistributivité globale de notre système, dans toute sa complexité, est une fonction extrêmement simple.
C'est-à-dire, on va expliquer ce point, c'est important, une fonction, parce que d'ailleurs on parle fonction là. Donc, en fait, le résultat est que, après tous ces mécanismes, impôts sur revenus, taxes diverses et variées, cotisations, etc., etc., si on regarde finalement l'impact de toutes ces mesures sur les revenus de tous, si on regarde en fonction du revenu, on trace en bas sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, tous les revenus de 0 à, on va dire, allez, jusqu'à 1 million d'euros par an, et plus.
Et plus.
Et on regarde la courbe de ce qui reste aux gens, finalement, c'est une courbe qui est simple, c'est ça. Hein.
Voilà,
Donc,
alors
et
ça.
c'est une droite en fait, c'est ça.
C'est de près une droite, absolument. C'est-à-dire
C'est
que.
une droite. Donc après tout ça, finalement, tout ça pour ça.
Ah, tout ça pour ça. C'est exactement le bon résumé. C'est que si on met en abscisse, effectivement, donc les axes des X, on met les revenus primaires. Les revenus primaires, il faut le rappeler, c'est les revenus du travail, ce qu'on touche de son employeur. Hein. Et même pour être précis, c'est ce que l'employeur va verser pour chacun de ses employés. C'est ça, vraiment la valeur marché du travail. Hein. C'est bien ce que l'employeur va verser. On met ça, on met également les retraites qu'on touche également. Hein. C'est qu'on a cotisé pour sa retraite. Bon. Éventuellement, les allocations chômage, pour lesquelles on a cotisé également. Bon, tout ça sont des revenus primaires.
Primaire.
Bon, ça, c'est l'axe des X.
C'est hors justement redistribution.
C'est avant la redistribution. Et après, la redistribution fait que le revenu disponible, c'est-à-dire ce qu'on a vraiment à la fin du mois dans son portefeuille ou dans son compte en banque, ça va être différent. Parce qu'on va toucher des allocations familiales, on va toucher éventuellement un RSA, on va toucher peut-être un minimum vieillesse, on va peut-être toucher différentes choses. Et puis aussi, on va payer des impôts. Alors, les impôts, donc tout ce qui est TVA, comme c'est le complément personnel, j'ai enlevé de l'étude. Ça, c'est impôt sur la consommation, c'est un autre sujet, à la limite, il faut mieux faire en abstraction. Par contre, impôts qui ont un impact redistributif, là, il est important de les prendre en compte, parce que ben, ça diminue le revenu disponible de chacun. Donc chacun a, pour former son revenu, a son revenu primaire, moins les impôts, plus les aides diverses.
Voilà, et c'est ça, ce résultat final qu'il faut analyser, quoi, en fait.
Voilà. Et donc la courbe, quand on regarde la courbe entre le revenu de départ et le revenu final qui est revenu disponible, eh ben, la transformation, c'est à peu près une droite.
Voilà. Et en mathématiques, on sait faire ça. Parce qu'en
Ah,
mathématiques,
mais.
quand on a une série, finalement, de transformations, alors j'ai une quantité, je la passe dans une première moulinette, je la passe dans une deuxième moulinette, dans une troisième, dans une quatrième, autant de moulinettes que je veux, et à la fin, j'ai une seule moulinette, en fait.
Voilà.
Et notre seule moulinette unique, c'est de dire finalement que c'est pareil que si tout le monde avait payé.
Voilà, et donc le résultat, c'est ceux qui sont installés à l'école se rappelleront la chose, y égale AX plus B,
Oui.
point final. La redistribution française, c'est globalement y égale AX plus B.
C'est-à-dire c'est une droite
C'est
et
une
en gros là
droite.
sa pente
Alors, voilà,
c'est
donc les valeurs.
80%. On garde 80% de ce qu'on
Voilà.
a en primaire en fait et on paye 20% d'impôts sauf quand on arrive près de zéro, où évidemment on touche le revenu social minimum, en gros.
Voilà, c'est-à-dire que, ça, que si on prend le X plus B, donc le B, donc c'est ce que tout le monde touche. Donc là, par adulte, globalement, on touche à peu près tous 400 euros par mois. Les enfants, à peu près 200 euros par mois. Ça, c'est tout le monde en France. Tout le monde a au moins 200 pour les enfants, 400 pour les adultes. Et puis, chacun cotise, sous une forme ou sous une autre, hein, c'est un nuage, hein, cette affaire-là, à peu près 20% de ses revenus sont prélevés pour financer ces 400 et ces 200 euros. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, en moyenne.
C'est déjà, donc c'est très simple. Donc on se
C'est
demande
exactement ça.
pourquoi, finalement, depuis 40 ans, 50 ans, on a accumulé de la complexité, des lois, des machins, pour finalement faire une droite.
Oui, parce que, bien
C'est-à-dire,
sûr.
une droite, il n'y a pas besoin de faire tout ça, on est d'accord.
Et ben, la droite, elle s'est trouvée petit à petit. C'est ça qu'il faut voir.
Elle
C'est que,
s'est faite.
historiquement.
Ça veut dire que sous la pression, quelque
Oui,
part, du marché et de la société, en
bien
fait,
sûr.
finalement, elle s'est construite. On est d'accord, c'est
La
ça qui
droite
s'est
s'est
passé.
construite. La droite s'est construite avec l'intervention, je dirais, des politiques, hein, de droite ou de gauche, des lobbies et autres, qui ont repéré des anomalies et qui, en dénonçant ces anomalies, obtiennent des corrections. Et ces corrections s'additionnant les unes les autres, finalement, on arrive à un truc moyen qui ressemble
Voilà.
beaucoup à une droite.
C'est comme si en fait on avait une courbe un peu molle, comme une corde,
Ouais.
comme ça, et que les uns ou les autres faisaient du punching ball dessus, et petit à petit la forgé pour en faire une droite. C'est ça,
C'est à peu près ça. C'est à peu
hein?
près ça.
Voilà.
Alors si on essaie d'aller à un cran en dessous, là, c'est la moyenne. D'accord? Si on va un cran en dessous, on regarde en se disant, bon, finalement, tout le monde n'a pas son point sur la droite. Il y a des gens qui sont un peu en dessous, d'autres un peu au-dessus. Il y a des cas
Oui, parce que c'est un
particuliers.
nuage de points en fait.
C'est un nuage de points qui est pas très large. Le nuage est assez ramassé tout de même. Hein. Et donc, il y a des gens qui ont un peu moins, des gens qui ont un peu plus. Bon, les gens qui ont un peu moins, par exemple, ce sont les jeunes entre 18 et 25 ans qui n'ont pas.
Parlons-en des jeunes, parlons des jeunes.
Pardon, les jeunes entre 18 et 25 ans qui ne touchent pas le RSA, qui n'ont plus d'allocation familiale, donc qui n'ont pas grand-chose, qui ont leurs aides de logement, c'est à peu près tout. Bon, sinon, ils ont leurs parents, en général. Voilà. Et puis, ça, c'est un cas où là, les 18 à 25 ans sont en dessous de la droite. Ils
Ils
sont en
sont un
dessous.
peu, ils sont en
Ils
dessous,
sont en dessous.
alors que
Alors, par rapport aux personnes plus âgées,
des personnes plus âgées.
qui auraient peu cotisé, parce qu'ils ont eu une vie compliquée, bon, hein,
Des
ça arrive
retraités en fait,
malheureusement,
hein, des
des
retraités.
retraités qui ont peu cotisé, touchent aujourd'hui le minimum vieillesse, qui dépend si on est seul ou en couple, hein, les montants sont différents, mais qui, ces montants-là, sont au-dessus de la moyenne. Donc,
Voilà.
dans les gens qui ont peu de revenus, donc les jeunes à 18-25 ans sont en dessous de la droite,
Ouais.
les personnes âgées sont au-dessus.
Voilà, mais c'est une petite marge, c'est pas. C'est
C'est une marge, enfin, c'est les cas un peu extrêmes, quoi.
le cas extrême.
Bon,
Et
et
puis
par
alors, il y
contre,
a aussi les riches, alors.
alors si on va sur les
Tu me
riches,
parlais des jeunes riches et des vieux riches aussi.
alors les riches, ce qui est très frappant, c'est de voir ceux qui ont ou pas des enfants, sur lesquels le quotient familial va jouer fortement, mais avant ça, ce sont les couples. Est-ce qu'on est seul ou en couple? Et
Ouais.
là, le quotient conjugal, dont on parle rarement, mais qui est tout de même très important, le quotient conjugal joue à plein. C'est-à-dire qu'un couple paye moins d'impôts que deux personnes seules. Assez fortement.
D'où l'intérêt de se marier.
Surtout qu'on a les revenus différents.
Sauf si la fiscalité change. Et là, il faut divorcer, c'est
Ah,
ça?
non, 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 non. On n'entre pas dans des débats moraux. Ce n'est pas la question. On regarde ça de manière économique. Okay? Donc, voilà. Donc, on a bien des différences par rapport à cette droite qui sont des cas particuliers qui tournent un peu autour de la droite.
Après, tu m'as dit, donc, pour les jeunes pauvres, on va dire, et les retraités pauvres, les jeunes pauvres sont en dessous, les vieux pauvres au-dessus, et puis
Oui.
alors, chez les riches, c'est l'inverse.
C'est plutôt l'inverse, mais ça se croise plusieurs fois sur
Ça
la
se croise
droite.
plusieurs
Sur la
fois,
soit
mais
droite, donc
ça tourne autour, en
ça tourne
fait.
autour, oui. J'aime bien l'image de ta corde qu'on agite là. Ça ressemble à ça, absolument. Ça ressemble à ça. Donc voilà, donc au final, on a un truc qui, effectivement, on a du mal à objectiver, c'est-à-dire à expliquer pourquoi est-ce que les uns sont au-dessus ou au-dessous au cas par cas. On se demande, on se pose vraiment les questions.
Alors ça
Parfois,
choque
bon.
l'ingénieur, on est d'accord avec ça.
Ah oui, l'ingénieur, il est malheureux. Face à
Oui,
ça,
parce que là,
l'ingénieur est
il voit
malheureux.
qu'un système qui devrait être simple, dont on voit la simplicité, et au final, il y a des choses qui ne s'expliquent pas parce que la complexité, finalement, a rajouté, enfin, brouille le message, en fait.
Donc, ça, donc on perçoit un système qui n'est pas optimisé. Ce n'est pas optimisé. Et donc, d'une part, donc d'un point de vue, je dirais, d'efficacité économique, c'est critiquable. Bon. D'un point de vue démocratique, là, on se dit, est-ce que le citoyen comprend le truc? Non, personne ne comprend le truc. Honnêtement, quand on voit comment sont construits les mécanismes, c'est extrêmement compliqué. Quand on voit le taux de non-recours du RSA, c'est choquant. Beaucoup de gens en France, beaucoup, mais c'est des centaines de milliers, hein, si ce n'est des millions, auraient droit à un RSA ou un RSA partiel
Ont droit.
et ne le réclament pas.
Ils ne le réclament pas.
Et ne le réclament pas. Et donc la complexité, c'est pas un problème théorique, c'est une réalité. Il y a des personnes qui ne bénéficient pas de ce à quoi elles ont droit, je dirais, d'un point de vue tout à fait légal et accepté par la collectivité.
Oui, parce qu'on leur montre ça comme un échec. C'est-à-dire que s'ils l'avaient eu dès le début, finalement, ils l'auraient intégré comme un droit. Et en fait, comme on leur présente comme finalement entre guillemets une roue de secours, alors que c'est pas du tout le cas, en fait, c'est parce que c'est mal présenté, ils le prennent pas parce qu'ils veulent pas se reconnaître en situation d'échec, ce en quoi ils ne sont pas. Il n'y a pas d'échec d'ailleurs
Non, voilà, et donc,
acceptable.
et c'est là qu'il y a un mensonge énorme, et là on sort un peu de la vision économique, hein, là je ne suis plus économiste quand je dis ça, nous avons un mensonge énorme. Parce que si on se bascule, allez, là, quelques siècles en arrière, on était sur un territoire, on avait son lopin de terre, son jardin, on faisait pousser ses carottes, bon, on pouvait vivre avec ses lapins, ce qu'on voulait, bon, ok. Donc on était dans un mode économique simple qui permettait, bon, en faisant quelques échanges autour de soi, de vivre plus ou moins bien. Aujourd'hui, dans le mode actuel, qui est un mode très largement urbain, ce n'est plus la question. Donc l'individu de l'année 2012 en France, c'est un individu qui est fortement dépendant de sa collectivité. On ne peut plus vivre seul en France, ça n'existe plus. Oui, on peut citer peut-être des exceptions, mais non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc chacun est dépendant de la collectivité, donc la survie de l'espèce humaine sur un pays comme la France est un enjeu collectif. Ce n'est plus un enjeu individuel. Et donc il est indispensable que la société reconnaisse ce droit collectif à un revenu permettant de vivre, je dirais de manière minimale, sur le territoire.
Donc c'est marrant ce que tu viens de dire, parce que tu viens de citer le rapport finalement aux ressources fondamentales du territoire, qui sont la terre dans l'ancien temps en quelque sorte, et aujourd'hui le fait qu'on n'a plus accès à ça parce qu'on vit dans un monde urbain, et ça forcément ça fait penser à la clause Lockéenne, qui expliquait qu'à un moment donné, ben, si tout est propriété, si l'essentiel est propriété, qu'il n'en reste plus assez pour les autres, il faut une compensation. Et c'est ça qui manque,
C'est exactement
cette
ça.
clause Lockéenne finalement, John Locke déjà avait tout vu dès 1600 et
Tout à
quelques.
fait. Et ça n'a fait qu'à s'aggraver. Ça n'a fait qu'aggraver.
Alors, donc on arrive à cette, on arrive à cette vision de la complexité qui finalement Après intégration, on montre que finalement tout est simple, c'est une droite avec un minimum qui existe déjà de fait, mais tout ça étant noyé dans la complexité divers, des divers guichets, etc. Et dans le discours aussi qui n'est pas clair vis-à-vis finalement, oui, de cette simplicité sous-jacente au système. Et pour dépasser ça, donc tu arrives à la conclusion, alors ça, il faut quand même en parler aussi, d'un montant tout à fait non ambigu pour un revenu de base possible dans le système qui, aujourd'hui, là, je te laisse la parole.
Voilà. Donc, en ayant fait cette étude, en montrant ce qui existe déjà, la proposition, c'est de dire, déjà, basculons la complexité actuelle vers un système très simple, en prenant en compte, comme un état de fait, que chaque adulte reçoit 400 euros et chaque enfant 200 euros, et que chacun cotise à hauteur de 20% de ses revenus pour financer cela. Et ça, je dirais, il n'y a pas de nouveauté d'un point de vue effort à faire. Non, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ça. Et donc, si on bascule la complexité vers ce système-là, ensuite, on peut avoir un débat démocratique disant 400, est-ce que c'est le bon montant ou pas?
Oui.
Est-ce que c'est plutôt 450 qu'il faudrait pour telle ou telle bonne raison?
Aujourd'hui, le RSA est plutôt à 450.
Y compris une partie de logement. Donc, si on a une partie de logement, ça fait un peu moins. Mais bon, enfin, peu importe, à la limite. Quelque part, on sent bien que dès qu'on commence à parler dans les termes simples, disant voici le montant qu'on alloue à chaque personne du fait qu'elle existe sur le territoire, on peut entrer dans un débat démocratique.
Oui.
On peut entrer dans une discussion et, qu'on soit de droite, de gauche, chrétien ou pas chrétien, ou tout ce qu'on veut, chacun peut avoir un avis par rapport à ça et on peut débattre sur un sujet commun.
Alors tu as vu que Christophe Gérard au Parti Socialiste, donc on a eu Christine Boutin avant la campagne présidentielle qui a déjà qui est partie sur cette idée, avait des montants similaires. Il a parlé de 400 et 200 à l'époque. Alors évidemment, c'est des choses qui dépendent de l'époque à laquelle on le dit. Là, on le dit en 2012. Évidemment, si on est en 2015, ça sera sans doute pas le même montant. Dominique de Villepin a annoncé en revenu citoyen, mais quand on a analysé sa proposition, d'abord il a changé en plus pendant le parcours. Mais il a parlé de dégressivité, ce qui n'est pas du tout l'idée. Enfin, il s'est un peu planté, à la fois sur le montant, qui était excessif. On est d'accord, il y a aussi ça, hein, le montant 400, 200. Bien sûr, on peut toujours faire plus, mais si on monte à des niveaux de genre 800, 900 ou 1000, on commence à casser le système. On est d'accord avec ça.
Ben là, ce n'est plus un sujet de redistribution. Là, c'est de la redistribution parce que en prélevant 20%, on peut financer ça et on a la preuve, on le fait déjà aujourd'hui.
On le fait déjà aujourd'hui, donc on
Par contre,
simplifie le système.
voilà.
Hein,
Par contre, si
ouais.
on dit il faut financer, je prends exemple, 800 euros par adulte et 400 par enfant, c'est-à-dire qu'on fait le double, c'est-à-dire qu'il faut prélever 40% de tout le revenu. Probablement même un peu plus parce qu'il y a forcément un peu de la perte en ligne.
Ouais.
Donc, est-ce que chacun d'entre nous est prêt à mettre au pot 40 voire 45% de ses revenus pour financer ça, sachant que dans ces revenus, on finance par ailleurs la santé, n'oublions pas, et ça pèse quand même de l'ordre de 12% de nos revenus, c'est la santé.
Ouais.
On finance également nos retraites,
Ouais.
hein, donc chacun dans son travail cotise pour la retraite, chacun finance aussi pour son chômage, chacun finance également les services de l'État, la police, la gendarmerie, la justice et autres, hein, l'éducation nationale et autres. Donc chacun finance beaucoup de choses. Donc mettre déjà 40, voire plus de son revenu pour financer l'allocation universelle ou revenu de base, c'est un choix qui est tout de même assez lourd.
Ouais.
Voilà. Donc ça peut se discuter. Hein. Moi, je n'ai pas d'avis quelque part par rapport à ça. Je suis économiste, donc je n'ai pas d'avis.
Ouais, bien
Mais en
sûr.
tout cas, c'est une question qui va se poser, je dirais, en tenant les deux bouts. C'est que qu'on ait un montant élevé, c'est très bien, ça, personne ne peut être contre ça. Par contre, le financement qui va avec peut être évidemment très très lourd.
Très bien, tout à fait. Alors, enfin, on va quand même s'arrêter 2 minutes. Juste, je rappelle que ces montants, 400, 200, évidemment, c'est des montants à peu près, on peut, comme tu dis, bouger un peu autour. Mais ils sont très proches à la fois des résultats de Yolande Bresson et aussi de ceux de la théorie relative de la monnaie, qui a fait une analyse purement monétaire, elle. Et on arrive à des montants à chaque fois qui sont effectivement similaires. Donc on peut se poser des questions quand même quand plusieurs analyses qui partent des points de vue très différents arrivent à des conclusions similaires, on a le droit de se poser des questions. D'ailleurs, un ingénieur en général se pose des questions. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément un truc. Mais souvent, dans les démonstrations, on le sait, qu'en mathématiques, en physique, on fait des démonstrations. Et parfois, on choisit tel type de démonstration, on arrive au même résultat, bien sûr. Sinon, c'est qu'en
Voilà.
général, on s'est trompé. Alors, je reviens aux politiques, puisque tu parlais que c'était un débat démocratique. Alors, que c'était la possibilité maintenant de le voir, de voir que cette situation existait de fait, qu'elle était. Donc, on pouvait simplifier ce système, qu'on pouvait admettre que ça y est, oui, c'est aussi simple que ça, et qu'on pourrait quand même simplifier la vie, peut-être, de beaucoup de gens qui passent leur temps à gérer un truc qui peut être un peu trop compliqué pour tous. Christine Boutin en a parlé. Dominique de Villepin a essayé. Bon, il s'est mal préparé. Hein. Je pense qu'il s'est un peu cassé un peu la figure sur cette affaire-là. Et on arrive maintenant en 2012. Alors, on est après la présidentielle, mais c'est quand même intéressant, puisqu'il y a le congrès du Parti Socialiste qui aura lieu au mois d'octobre. Et il y a, surtout, c'est ça qui nous intéresse, parce qu'on n'est pas partisans ici, c'est que Christophe Girard du Parti Socialiste vient de proposer, alors lui il l'appelle revenu social garanti, mais enfin c'est un revenu de base aussi. Alors il précise pas trop le montant, mais il a précisé cumulable et donc on voit entièrement cumulable et individuel. Donc tu as vu cette proposition?
Alors, j'ai vu la proposition, enfin, succinctement, je n'ai pas fouillé plus que ça, mais ce qui est quand même très frappant, c'est de voir que nous avons des promoteurs de ce concept, hein, de revenu de base, qu'on trouve à droite, à gauche, libéraux, libertaires, écologistes, de tous les bords. On le voit de tous les bords, et c'est vraiment, on le voit, c'est un engagement assez personnel, c'est une conviction personnelle qui mûrit avec le temps, et plus on y pense, plus ça mûrit. Donc attention à mes auditeurs, n'y pensez pas trop, sinon ça va vous manger un peu, hein. C'est très dangereux.
Il faut laisser mûrir.
Voilà, et quand mûrit, et après on se pose des questions, et puis les expériences de vie que l'on additionne renforcent la conviction, en disant, mais finalement, pourquoi cette complexité? Ça ne sert à rien, on humilie les gens, c'est pas efficace, on déploie une administration qui ne sert à rien par rapport à ça, il vaut mieux que l'administration serve des vrais besoins des gens, plutôt que compter des sous pour embêter les gens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait des gens de tous bords politiques qui s'intéressent à ça par conviction personnelle et par expérience personnelle. Donc moi, je suis extrêmement, extrêmement optimiste par rapport au devenir de ce concept. La seule difficulté, c'est qu'il faut que nous arrivions à formuler des propositions, à les partager, avec des approches qui, d'un point de vue théorique, sont différentes. Alors, on l'a vu, c'est trois exemples que tu as pris là. Mais également, je dirais, par rapport à la forme du discours, peuvent être assez différents. Mais il faut arriver justement à formuler des choses qui puissent faire un sens commun. Le jour où on aura un discours qui pourra toucher une masse de personnes avec une compréhension qui sera vraiment reliée à l'expérience vécue personnelle de chacun, là on va gagner. Enfin, quand je dis on va gagner, c'est que nous allons gagner tous. Parce que nous allons arriver à un système efficace et juste.
Voilà, c'est pour ça que sur Monnaie Libre, on donne la parole à plusieurs points de vue sur cette affaire-là, à la fois d'informaticiens, on en a reçu, les promoteurs du projet OpenUDC, Yolande Bresson qui est intervenue aussi, toi maintenant, on a eu le Parti Pirate aussi avec Carole Fabre qui a parlé aussi de sa vision du revenu de base. Et alors, il y a le site revenubase.info que tu connais bien. Alors, on peut en parler un peu, et puisque tu es là, tu es aussi un témoin de cette affaire-là que tu suis de près, tu es un des promoteurs en France du revenu de base qui compte. Tu fais partie des mouvements qui s'intéressent de près à cette affaire-là. Revenudebase.info, un site qui s'est lancé récemment, c'est Stanislas Jourdan qui a eu cette initiative et qui essaie justement de réunir un peu toutes ces idées. Et alors, au-delà de ça, il y a eu une initiative citoyenne européenne. Tu as entendu parler de ça
Oui.
et je crois qu'il finalement, bon, ben, alors l'idée c'était de regrouper, alors ça allait dans les démarches que tu disais, alors là c'était même au-delà de la France. Ils ont regroupé des communautés de soutien de revenus de base qui sont
Dans
importantes
trois
en
pays.
Autriche, en Allemagne, en Espagne,
En
en
Suisse.
Belgique, donc un peu partout.
Oui.
Et l'idée, c'était de proposer une nouvelle possibilité qui s'offre aux citoyens en termes de démocratie en Europe, soi-disant, entre guillemets, qui est l'initiative citoyenne européenne pour dire, voilà, initiative citoyenne européenne pour un revenu de base, il fallait proposer ça à la commission qu'elle l'accepte et qu'après il fallait chercher je sais plus 1 million de signatures. Bon, peu
Voilà.
importe. Et alors je crois que c'est malheureusement c'est pas passé.
Alors, ça n'est pas passé. Alors, il faut voir que dans la réponse de la Commission européenne, ce qui est formulé, je dirais en peu de mots, c'est que la Commission ne s'estime pas compétente pour juger d'une proposition qui ne pourrait pas être appliquée de manière uniforme dans les différents pays. Effectivement, un revenu de base calculé en France, c'est de l'ordre de 400, peut-être 500 euros. Bon. En Suisse, connaissant le niveau de vie des Suisses, je salue nos amis suisses qui nous entendent,
Ils sont pas dans l'Europe, eux.
ils n'ont pas d'Europe, mais néanmoins, enfin, ils sont concernés, parce qu'en fait,
Ouais.
c'est quelque chose qu'on ferait, et ils seraient forcément dans l'histoire, forcément. Les Suisses, tel que c'est calculé, c'est l'ordre de 1500 euros par personne.
Elles sont très riches, les Suisses, alors.
Ah oui,
Hein.
il y a riche en Suisse. Le revenu minimum en Suisse n'a pas grand-chose à voir avec le revenu minimum en France, c'est pas le même sujet. Voilà.
D'accord.
Bon, mais ça, je pense que c'est deux
Et
extrêmes.
en Espagne, par exemple, est-ce que tu aurais une
En
idée?
Espagne, j'ai pas le chiffre, mais bon, ça sera les chiffres différents également. Donc voilà. Donc
En se basant sur les budgets des États, hein, c'est ça hein, le
Voilà,
principal.
donc la commission dit, bah là, c'est quelque chose qui peut avoir l'intérêt sans doute, mais nous ne sommes pas compétents pour juger de quelque chose qui ne serait pas applicable par un décret dans tous les pays. Donc, ça nous pose évidemment une difficulté.
Mais ça, c'est remarquable ce que tu dis là, parce que quand on voit les discours sur la crise de l'euro, qui est de dire finalement avoir fait une monnaie commune entre des économies qui sont si différentes, ils voient des problèmes au niveau macroéconomique, au niveau des transferts, au niveau des échanges économiques qui sont distordus, qui sont asymétriques. L'Allemagne vend, puis les autres achètent, jusqu'au jour où ils n'ont plus de sous. Et finalement, on retrouve, y compris dans l'analyse avec le revenu de base, la même asymétrie. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, ben, mécaniquement, si on voulait mettre en place un revenu de base, alors soit basé sur même, d'ailleurs même d'un point de vue monétaire, si on regarde finalement d'un point de vue monétaire, si il faudrait regarder la monnaie circulante dans tel ou tel pays, et puis on ferait le ratio, et effectivement il ne serait pas le même, on est d'accord.
Voilà.
Et si on le fait sur cette analyse-là, on aurait des revenus de base différents, et c'est ça qui pose problème en fait finalement.
Voilà, donc ceci, j'interprète peut-être un peu la réponse de la commission, hein, mais quand même, ça ressemble à ça. Et donc.
Sauf si on disait dans tous les pays d'Europe, c'est 10% du budget de l'État, c'est la même règle pour tous. Ça ne sera pas le même montant.
Non, c'est pas un montant. Voilà, donc c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. Bon, d'un autre côté. Il y a peut-être une alternative. Quand je vois cette réaction, c'est un truc que j'avais d'ailleurs discuté avec le professeur François Bourguignon, qui est de dire pourquoi pas mettre en place un mini revenu de base européen, qui dit par rapport à une communauté de gens qui veulent vivre ensemble sur un territoire qui est l'Europe, hein, zone euro ou Europe, voire, il peut y avoir une solidarité qui s'exprime sur ce territoire plus large, et donc un revenu de base qui est partagé là-dessus. Alors imaginons un montant extrêmement simple. On dit, allez, on va donner, je dis un chiffre idiot pour que ce soit simple. Mettons qu'on donne 1 euro à chaque Européen tous les mois. Mais c'est un euro qui est fabriqué avec un impôt qui est prélevé auprès de chaque habitant du territoire européen. 1 euro pour un Français, bon, on est content symboliquement, mais ça reste du symbole. Bon, pour un pays du sud de l'Europe, c'est encore du symbole. Pour un pays du nord de l'Europe, bon, pour un bon, Suisse, on ne parle même pas, ils sont pas européens. Et pour un Allemand, bon, c'est bon. Voilà. Donc, l'euro, bon, si c'est pas 1 euro, si c'est 50 euros
Ça
ou
commence à
100
jouer.
euros, ça commence à jouer. Et là, 100 euros qui arrivent sur un ménage français, ça devient significatif. Pour un ménage grec, si on va là-bas, un grec qui reçoit 100 euros. Qui est une redistribution, qui est une solidarité qui s'exprime directement entre tous les citoyens du territoire européen, là, ça a un vrai sens. Là, ça a un vrai sens. Et donc, on pourrait
On
éventuellement
pourrait parler
imaginer.
de la Roumanie, parce que la
Oui,
Roumanie,
le pays.
voilà le pays sans doute le plus pauvre
C'est
d'Europe, peut-être, ou un des
pour.
plus
Oui,
pauvres.
voilà. Et donc, voilà, donc, on peut très bien imaginer une solidarité directe des citoyens du territoire européen qui s'exprimerait par un revenu, en sens probablement trop, parce qu'après, on aurait des problèmes de fiscalité, mais peut-être 50 euros. Peut-être, qui serait l'expression directe de la solidarité entre citoyens du territoire européen. Ce genre de choses est peut-être plus recevable par les instances européennes.
Donc c'est la formulation de cette initiative. Alors, mais alors pourquoi pas on a des pays dans le monde hein, qui appliquent déjà ou dans des régions de certains pays qui appliquent déjà des expériences de revenus de base, d'allocation universelle. Mais alors pourquoi pas aux USA? Parce que alors les USA, ils n'ont pas ce problème de.
Création monétaire.
Non, mais je veux dire, sans parler de. Non, sans parler de création monétaire, mais pour les USA, le budget, ils ont une fédération, donc il y a quand même un budget fédéral, ils ont quand même des impôts fédéraux, donc ils pourraient aussi basculer sur cette idée.
Il pourrait basculer. C'est vrai que la fédération est quand même plus forte aux États-Unis, plus ancienne, hein,
Ben
plus
oui.
bon.
Est-ce que c'est pas par là que. Encore une fois, peut-être qu'ils vont nous griller la politesse
C'est possible.
sur cette possibilité-là. Est-ce
C'est
que
possible.
finalement.
Dans les années 60, de mémoire, ou 50, je ne sais plus, un candidat à l'élection présidentielle américaine avait proposé le revenu de base comme élément phare de sa proposition, mais il n'a pas été élu. Donc c'est un débat qui a également eu en Europe, aux États-Unis. C'est une proposition qui est connue aux États-Unis également. Et donc peut-être qu'effectivement, des économistes, des politiques américains vont pouvoir arriver à faire avancer quelque chose là-bas. C'est
Enfin, on
pas.
voit en tout cas que l'idée progresse, hein,
Il y a des progrès
là-bas, très
partout.
clairement. Hein.
Tout à fait.
Très bien. Donc, Donc on arrive à, ben on va arriver à la fin de cette émission. Je crois qu'on a tout vu, hein. Je crois qu'on a bien vu ton parcours. On a bien vu comment cette thèse était construite. Alors on va parler un peu de ton, peut-être aussi de, tu voulais y rajouter quelque chose?
Sur la proposition, je pense qu'il faut quand même garder en tête que quand on parle de redistribution, les 200, 400 euros et 20%, ça couvre vraiment la partie redistribution sociale. Forcément, il faut garder des éléments complémentaires qui sont importants pour les personnes. Typiquement, le système de santé, il est hors de question d'y toucher. La santé, c'est un bien particulier qui a un système qui fonctionne, les hôpitaux, la médecine de ville, la pharmacie, bon, on n'y touche pas. Tout ce qui est allocations qui dépendent de cotisations préalables, donc le système assurantiel pour les retraites et pour le chômage, on n'y touche pas. C'est quelque chose qui est financé par les cotisations qu'on paye soi-même. Toute l'aide au logement varie énormément d'une région ou d'une ville à l'autre. Donc ça, c'est une complexité qui est locale. Pareil, ça n'a rien à voir avec la question, avec un revenu de base identique pour tout le monde. Donc le logement, c'est à part. Donc tout ce qui aide aux handicapés, pareil, voilà. Donc il faut bien voir que l'allocation de base, c'est quelque chose qui est de base pour tout le monde. Déjà, c'est le cas commun. Mais ensuite, il y a forcément des mécanismes complémentaires qu'il faut préserver à côté. Hein, donc, ne partons pas avec l'idée qu'on fait table rase de tout ce qui existe à côté.
Oui, ça c'est ce que Olivier Aubert, on peut le citer un peu, qui aussi, Olivier Aubert, ingénieur aussi d'ailleurs, tiens, mais artiste lui.
Ah oui.
Voilà. Et qui a, il a appelé ça, il a trouvé un joli terme, j'aime beaucoup, il trouve de très belles expressions en général. Et, il appelle ça la révolution immobile. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Révolution
Tout à
immobile,
fait.
c'est-à-dire on change tout, mais on change rien. En fait, on change tout. Mais finalement, ça bouscule pas tant que ça, finalement, les choses établies. Ça les transforme au cœur. C'est le corps des réacteurs qu'on change en fait. On ne change pas les murs, on ne change pas le. Mais on a un moteur meilleur en fait. On a un
C'est
meilleur
ça, plus
moteur,
efficace.
plus efficace. Donc je voulais quand même citer pour ceux qui s'intéressent dans le détail à ta thèse et qui veulent chercher les chiffres, etc. Ton site qui s'appelle donc, rappelle-nous l'adresse.
Donc www.allocationuniverselle.com.
Voilà, allocation, je ne peux pas se tromper.
Allocationuniverselle.com.
Il aurait pu s'appeler. Il aurait pu appeler. Mais d'ailleurs, oui, alors. Je crois qu'on a convergé vers le nom unique. Hein. Revenu de
Oui.
base ça semble s'imposer quand même. Hein.
C'est-à-dire qu'au point de vue international, le mouvement international s'appelle donc le Basic Income Earth Network. Basic Income, c'est revenu de base. Et donc, dans beaucoup de pays, on entre Basic Income, en Allemagne, Grundeinkommen. Donc, c'est vraiment la terminologie internationale qui fait
Oui. Et
référence.
même Renta Básica, en
Rentabasica,
espagnol, encore le
ouais,
basique qui
avec le
arrive.
Brésil, pareil, voilà, donc c'est assez général.
C'est assez général. Oui, alors, qu'est-ce que tu penses, toi, des initiatives de type informatique, justement, sur les monnaies? Parce que c'est monnaie libre ici, quand
Oui, tout à fait.
même.
Alors, la
T'as
monnaie.
entendu parler de Bitcoin,
Oui, j'ai entendu parler, bien sûr.
projet OpenUDC, d'autres projets de
Oui.
monnaie. Enfin, non, il y a
Alors,
des tentatives aussi de.
vu ma vie professionnelle et familiale assez remplie et ma thèse, c'est vrai que je suis assez sélectif sur les sujets que j'analyse en détail. Donc, j'ai une culture un peu de la chose. J'ai lu quelques papiers sur le sujet, donc je trouve ça intéressant et je pense que ça vaut le coup de travailler là-dessus. Mais je n'ai pas travaillé personnellement. Voilà, donc, je n'ai pas d'avis très, très autorisé sur la question.
D'accord.
Mais effectivement, je partage totalement le constat que le système monétaire tel qu'il est construit est juste pas viable, est une aberration à la base. Hein. Donc,
Il est injuste.
il est juste, il est idiot. Enfin,
Il est idiot.
c'est quand même
Ah,
miteux.
il est idiot, excellent.
C'est quand même miteux. C'est
On
quand
va
même miteux.
envoyer cette émission à Mario Draghi et même à Trichet, tiens, Jean-Claude Trichet pour sa retraite.
J'ai eu l'occasion de parler avec un ministre du budget précédent. Donc, bon, voilà. Donc, sur le sujet, je
Lequel?
suis clair.
Des noms.
C'est clair. Donc, non, le système n'est pas viable. Et ça, on le voit tous, et la crise actuelle européenne montre bien que le système arrive à une extrémité qui n'est plus supportable. Donc, effectivement, il faudra trouver autre chose. Autre chose, quoi? Je n'en sais rien, je n'ai pas travaillé la question. C'est vrai que des recherches telles qu'elles sont faites actuellement par des monnaies alternatives, pourquoi pas? Là, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais
D'accord.
je pense que c'est intéressant de chercher.
C'est toujours intéressant de chercher les selles, les initiatives locales aussi. C'est
Absolument.
peut-être aussi la manifestation d'une absence de revenu de base. Si le revenu de base était là, ces initiatives seraient du coup moins prégnantes, moins nécessaires. Il y aurait peut-être moins de besoin de les créer. Bon, donc elles se font peut-être sous contrainte finalement. Mais dernier point peut-être pour conclure, je pense que c'est intéressant d'avoir ton avis aussi. Est-ce que finalement, notre analyse du revenu de base, bien sûr, il y a une analyse qui dit on peut le faire dans le futur, parce qu'il n'est pas là. Une autre analyse est de dire si on l'avait fait dans le passé, les 30 dernières années. Est-ce qu'on vivrait la crise d'aujourd'hui?
Alors, pour répondre à ça, évidemment, c'est une question qui est très intéressante. Si on prenait le temps de la mûrir, je pense que c'est une très bonne question. Je répondrai en évoquant un papier que vient de sortir Stanislas Jourdan, qui a fait une étude sur une proposition de revenu de base pour la Grèce, en disant la Grèce est dans une situation effectivement très difficile.
Et traduite en grec. Hein. Elle a
D'accord,
été traduite. Oui, elle a aussi
j'ignorais.
été traduite en grec.
Très bien.
Ouais.
Et donc Stanislas a travaillé en disant ben, qu'est-ce qu'un revenu de base changerait dans la situation en Grèce? Donc j'ai lu son papier, qui est très bien fait. Et honnêtement, je pense que ça vaut le coup de voir par rapport à des crises aiguës que nous traversons actuellement, quel regard on pourrait avoir et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'un système alternatif qui protégerait quand même les personnes, parce on est là à protéger les personnes, là, en Grèce. Et donc, je pense oui, effectivement, on peut assez facilement transposer cette expérience grecque pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut se passer pour... Bon. Par rapport à la France d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu ambiguë aujourd'hui en France. On voit que la crise est difficile, on ne sait pas très bien où on va. Le gouvernement, on voit bien qu'il est en difficulté par rapport à la mise en place de solutions par rapport à ça. Donc effectivement, on a un grand terrain de jeu devant nous. Donc, si on arrivait à une situation de crise plus aiguë comme on a en Grèce, à la limite, ce serait peut-être plus facile d'imaginer et de raconter une histoire collective qu'on pourrait... Je dirais très partagé plus largement dans la population. Aujourd'hui, on est dans une situation qui, on dirait, ça va pas très bien, ça va pas très mal non plus. Donc c'est assez compliqué de faire visualiser une solution telle que nous pouvons la
Je
construire.
pense que la crise n'est pas allée encore assez profondément,
Alors là,
finalement.
je ne le souhaite absolument pas. Mais effectivement, quand on voit un pays qui est dans cette crise, quelque part, c'est beaucoup plus facile d'imaginer le bénéfice.
Oui, mais est-ce que quelqu'un qui, ou des gens, ou des personnes, des individus, des citoyens qui vivent au quotidien la crise, est-ce qu'ils ont le temps finalement de se poser ce genre de questions? Est-ce qu'ils ne sont pas dans une telle urgence que même la capacité de prendre le temps d'y réfléchir, de trouver une solution n'est plus là, quoi. Il n'y a plus le
Ben,
temps de le faire.
bon, on n'a plus de temps, mais quelque part, une solution de revenu de base, qui est une solution extrêmement simple dans sa mise en œuvre,
Oui, mais à effet peut-être lent. C'est peut-être dans
non,
le
je ne
temps
crois
que
pas,
ça. Tu
je ne
penses
crois
que ça peut
pas,
être rapide
non.
aussi?
On décrète que la situation, on est dans une situation d'urgence en Grèce. Imaginons, mettons-nous en 1945, où on avait des tickets alimentaires.
Oui.
La situation d'urgence, on trouve les solutions d'urgence qui correspondent aux besoins fondamentaux. Donc en Grèce, donner à chaque individu le minimum permettant de se payer ce qui permet de survivre, ben c'est quand même l'actualité.
Et peut-être qu'il manque en Grèce, finalement, le système aussi de distribution, je ne parle pas de redistribution, mais de distribution sociale
Ben
qui n'est peut-être pas là aussi. C'est
oui,
peut-être ça le
la
problème
Grèce, ben,
aussi.
c'est l'essence sociale, oui, mais aussi beaucoup le système de prélèvement qui est quand même très déficient
Oui,
en Grèce.
il y a aussi
Donc là,
ça.
il peut y avoir aussi un message fort qui est de dire, OK, la population est en grande difficulté, nous pensons qu'il est indispensable que chaque Grec ait ce minimum pour vivre, ce montant-là, fois la population, ça fait ce budget-là, nous devons mettre en place une imposition pour récolter ce montant-là. C'est une décision nationale qui s'applique à tout le monde. Il est hors de question que quiconque se soustrait à ce besoin de nourrir la population du pays.
Chacun doit avoir son revenu, hein,
Chacun doit s'en spécialité.
monétaire qui lui permet de faire ses choix de façon
Voilà. Et
optimisée là où il est.
chaque Grec, en fonction de ses capacités contributives, doit assumer sa participation à cet effort collectif.
Et on est d'accord que tout ce qui ressort du ticket de rationnement ou du... Alors, il y a même le Parti libéral dans la dernière émission de Monolib qui parlait du chèque éducation pour choisir son école, etc. Finalement, tout ça, c'est des pis-aller par rapport au revenu de base, parce que c'est encore une fois orienter finalement ce qui est distribué vers tel ou tel type d'investissement ou d'éducation.
Oui, mais c'est tout de même intéressant, parce que là on parle d'un chèque éducation, donc on donne une liberté aux personnes
Oui, mais
de
moins grande que
choisir.
celle qui est monétaire.
Certes, mais néanmoins, c'est quand même une liberté. Si on va dans cet exemple-là, on va aller sur ce qui se passe en Iran actuellement. En Iran, ils avaient donc ces dernières années mis en place des aides aux personnes pour l'accès à l'essence. C'est idiot, l'Iran qui est un pays pétrolier, ben, finalement avait une pénurie d'essence très grave. Et donc, ils finançaient l'accès à l'essence de la population. Et finalement, ils ont pris une décision, hein, c'est assez récent, c'est l'année dernière, je crois. de remplacer ce système de financement de la consommation d'essence par un financement universel distribué à toute la population pour l'accès à l'énergie. Et donc chaque Iranien reçoit aujourd'hui un montant qui permet de l'aider à financer son accès à l'énergie. Donc c'est une chose beaucoup plus ouverte. C'est une allocation universelle donnée à tous les Iraniens. Donc on voit bien, et ils ont fait ce constat-là en remarquant que c'était plus efficace. Plutôt que de payer pour que l'essence ait un prix artificiellement moins cher, on préfère distribuer un pouvoir d'achat par rapport à ce besoin essentiel à une population.
Si on le faisait pour tous les besoins par revenu de base, ça serait
Voilà.
encore mieux. Bien sûr. Ben merci Marc, je crois qu'on a bien vu. C'est important. Je crois que cette thèse est très importante. Je l'ai toujours dit, je crois. Puisque c'est encore une fois, c'est une validation quand même par le système universitaire de l'approche revenu de base en France. Alors il y en a d'autres, comme tu l'as déjà dit. Il y en a eu un même avant. Et ça fait partie donc de ce. Finalement, tu t'inscris dans le courant historique des Douglas, ingénieurs déjà, hein, au début du XXe, qui a inventé aussi, enfin, qui a enrichi ce concept qui est encore plus ancien, hein, puisqu'on a parlé de John Locke, on pourrait parler de Thomas Paine, et on pourrait parler même de Milton Friedman, qui quelque part
Ah oui, la liste est
joignait.
longue.
La liste est longue, et il faut. Et évidemment, il ne peut pas y avoir de contrat social sans que tout le monde soit d'accord et exprime cet accord. Donc, ben, si vous voulez en base, ben, il faut que tous les Français soient d'accord, enfin, au
Voilà.
moins 95%, quoi.
J'espère que la grande différence qui est entre moi et ses prédécesseurs, hein, qui sont tous des gens remarquables, hein, c'est que je verrai cette chose arriver dans notre pays, dans un délai assez court.
Ben,
Voilà.
oui, je pense aussi que la mutation est presque là. Merci Marc. Merci de nous avoir écoutés dans cette émission, à mon avis, très importante parmi toutes celles qu'on a faites déjà. Allez voir le allocationuniverselle.com pour avoir plus de détails et rentrer dans les chiffres. Hein. Il faut travailler un peu. Hein. Marc a fait le travail, mais il faut lire. Hein. Il faut aussi étaler ce travail. Il ne faut pas laisser s'enfermer. Faut pas le laisser s'enfermer. Il faut en profiter, en parler. Merci à tous. Je vous laisse et je vous dis au revoir. À la prochaine fois dans un nouvel épisode de Monélive. Je vous laisse avec No More Dreams de Nighter. Au
Au
revoir.
revoir.